L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Et ce matin, nous recevons Maître Barbara Cauchois. Bonjour Madame Le Bâtonnier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez été élue en milieu d'année dernière. Vous avez pris vos fonctions officiellement au 1er janvier. Peut-être commencer par rappeler le rôle du bâtonnier.
Le bâtonnier, il a plusieurs casquettes. Il est l'intermédiaire entre la société et les avocats. Et il est aussi une sorte de rôle un peu paternaliste, alors maternant, je ne sais comment on dit, entre les avocats aussi. Donc entre les justiciables et les avocats, entre les juridictions et les avocats, entre les représentants de la société civile et les avocats. Il est là pour les représenter pour un mandat de 2 ans.
Vous êtes en quelque sorte le porte-parole des avocats de Nouvelle-Calédonie ?
Oui, c'est ça.
Et quelles seront vos priorités au cours de ce mandat et pourquoi vous êtes engagé d'ailleurs dans cette voie ?
Ça fait longtemps que je suis engagée sur la vie ordinale en fait, du barreau. J'ai d'abord été membre du Conseil de l'Ordre sur plusieurs mandats et ça m'a toujours énormément intéressée. Et je me suis présentée avec un ami de longue date qui est mon vice-bâtonnier, Maxime Garin-Fleury, avec lequel je travaille également depuis de nombreuses années. Et on avait à cœur d'apporter des nouveautés, des nouvelles choses et notamment peut-être de communiquer différemment. On est aussi sur une phase de transition en Nouvelle-Calédonie et on avait de nouvelles idées qu'on voulait porter, qu'on a proposées au barreau et qui manifestement leur ont plu.
Quand vous dites communiquer différemment, ça veut dire qu'aujourd'hui, selon vous, les avocats ne communiquent pas suffisamment, pas suffisamment bien
On communique très certainement mal, parce que c'est pas le cœur de notre profession de communiquer. Et aujourd'hui, tout est communication. Nous, on communique pas, on n'a pas de réseaux sociaux, c'est pas le sujet, mais la difficulté, c'est que ça nous rend un petit peu difficile pour que les justiciables puissent nous contacter, alors qu'il y a plein de choses qui sont proposées. La Maison de l'Avocat propose des consultations gratuites, les avocats sont présents à la CCI aussi pour accompagner les entreprises, on est aussi présents dans les centres d'action au droit, mais on voit d'ailleurs, notamment depuis les émeutes, une baisse de la fréquentation, notamment des centres d'action au droit, qui sont pourtant présents sur tout le territoire. Nouméa, Grand Nouméa, le Nord, les îles, et finalement on s'aperçoit que les gens viennent de moins en moins consulter. Alors, je sais que les médecins ont aussi cette difficulté et on a l'impression que les gens s'éloignent un peu justement des professionnels qui peuvent les accompagner, justement dans cette période de crise où notre accompagnement est encore plus nécessaire.
Et vous avez notamment une casquette de médiateur de votre côté, donc vous connaissez bien cela, vous pensez que c'est une phase importante et qu'il ne faut pas tout de suite aller au palais de justice quand on a un différend avec quelqu'un ou avec un organisme?
Je pense que dans l'imaginaire collectif, l'avocat, il est en robe d'avocat pour plaider dur au pénal. Mais ce n'est pas que ça. Déjà, on peut plaider bien évidemment dans tout un tas d'autres matières, mais il n'y a pas que le contentieux. Il y a en effet toute la phase en amont, voire même en parallèle, parce que la médiation n'empêche pas la saisine de la juridiction, mais l'avocat, il est là aussi pour conseiller en amont les entreprises, les salariés, en affaires familiales, pour éviter justement d'arriver à la phase contentieuse où les gens sont déjà dans un conflit déjà ouvert et consommé. Nous, on est là pour limiter le conflit en amont. Ensuite, quand il est là, on est là en effet pour le régler devant le juge. Mais il y a toute cette phase en amont. Il me semble qu'on a peut-être oublié, enfin, en tout cas que certains ont oublié, il y a quand même des cabinets ici qui sont essentiellement des cabinets de conseil d'affaires, mais les gens n'ont pas forcément le réflexe de prendre contact avec nous pour cette phase-là. Or, si on fait bien cette phase en amont, ça peut éviter la phase contentieuse.
Vous disiez que les choses avaient changé depuis les émeutes de mai 2024. Est-ce que ça vient du fait de la nature, peut-être, des affaires qui ont été traitées pendant cette période-là? Est-ce qu'il y a une rupture avec le monde judiciaire depuis d'un certain nombre de personnes?
Alors, je crois que, malheureusement, mais ça c'est au niveau mondial, on a une rupture de confiance envers tout ce qui ressemble à ce qui peut être l'État, avec l'autorité. Nous ne sommes pas l'autorité. Nous sommes justement pour accompagner les gens et leur permettre de communiquer avec l'État. Et depuis les émeutes, mais même avant, sur la crise économique, en fait, nous sommes au cœur de la société civile. Donc, on va et on vient avec la société civile. En ce moment, elle est en souffrance. Le barreau également est en souffrance parce que on reçoit des gens dans nos cabinets qui sont dans des difficultés plus grandes encore qu'avant, même si c'est pas les émeutes qui a été le point déclencheur. On avait déjà des difficultés économiques et là, évidemment, qui se sont encore aggravées. Et moi, dans mon cabinet, je fais beaucoup d'affaires familiales, je reçois des personnes qui n'ont plus aucune ressource. Donc on est dans des situations quand même très difficiles. On a eu énormément de départs de territoire, de personnes qui, des Calédoniens ou pas d'ailleurs, quittaient le territoire et partaient pour un ailleurs qu'ils ne connaissaient pas pour certains. Parce que les gens ne voient plus tellement d'espoir pour certains. On a des entreprises qui ferment, on a des salariés qui sont licenciés, économiques, on a beaucoup de questions sur un avenir incertain pour l'instant pour la Calédonie. Donc les gens sont en souffrance, le barreau est très sollicité, mais est également dans cette même voilà dans ces vagues un peu de espoir moins d'espoir.
Les avocats vous font part de leurs difficultés justement en ce moment liées au fait d'être au cœur de la société.
Ça dépend, comme toujours, des gens. On a eu les premières difficultés économiques, hein, quand évidemment, quand il y a une sorte de shutdown sur le territoire, nous ne sommes payés que quand on reçoit des clients et qu'on assure une assistance pour eux. Donc il y a eu pendant des mois, en fait, des cabinets qui, évidemment, n'ont plus de revenus. Donc ça, oui, c'est des choses que certains ont pu nous confier. Et puis aussi, il y a eu l'impact psychologique qui a touché tout le monde avec, comme je vous le disais, cette inquiétude sur l'avenir, voire même certains ont vécu des choses dures pendant les émeutes et donc on a cet impact psychologique qui fait que les gens sont fragilisés. Mmh. Alors les avocats, on leur propose en effet des accompagnements pour qu'eux-mêmes en tant que professionnels puissent accompagner les fragilisés, mais il n'en reste pas moins que nous sommes aussi des êtres humains.
On en parle un petit peu plus peut-être depuis les grands procès, je pense aux attentats de Paris ou Gisèle Pellicot, où on parle aussi de la souffrance des avocats qui toute la journée voient des gens défiler dans leur cabinet et qui rencontrent des difficultés immenses et on ramène tout ça avec soi et on peut être aussi en souffrance psychologique et on n'en parlait pas, ce sont des professions où on n'osait pas dire aussi qu'on allait mal.
Oui, mais nous sommes humains, il y a d'ailleurs au mois de mars une journée de la santé mentale des avocats parce qu'en effet on a beaucoup de casquettes. Alors ça dépend des matières évidemment qui sont traitées, la matière en gros toutes les matières qui sont liées à l'humain, donc les personnes qui perdent un travail, les personnes qui doivent liquider leur société, qui sont poursuivies, les personnes qui sont victimes, mais aussi quelquefois les familles des auteurs. Et l'avocat, il est à la fois un peu le psychologue, alors on n'a pas la formation bien évidemment, mais on reçoit tout ça. Et on doit porter, et c'est notre travail, on doit porter aussi le malheur des gens et leur apporter une solution. Et donc, quelquefois, en effet, quand on rentre à la maison, c'est pas toujours très facile de laisser les ennuis au travail. Être avocat, c'est être avocat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Clairement, on ne peut pas fermer la porte et dire on passe à autre chose. C'est très difficile.
Alors, évidemment, il y aura un avant et un après 13 mai, je pense, pour les avocats calédoniens. Vous avez d'ailleurs signé une tribune pour appeler à la paix et montrer aussi le travail que vous faisiez à l'époque. C'est encore le message que vous allez porter pendant ces 2 ans
Ce qu'on voudrait, c'est expliquer qu'un avocat qui défend, c'est pas un avocat qui prend fait et cause pour la personne qu'il défend. C'est un avocat qui prend fait et cause pour le droit d'être défendu en toutes circonstances. Qu'on soit auteur, qu'on soit victime, on a droit d'être défendu parce que l'avocat, il porte la parole de la personne qui va devant la juridiction. Mais quand je suis médiateur, moi je suis là pour que les gens parlent. On est une profession en fait de communication. Nous, on communique pour le client quand on est devant la juridiction. Et moi, quand j'ai la casquette médiateur, je permets aux gens de communiquer entre eux et de mieux communiquer. Communiquer et conseiller, c'est ça notre travail, le cœur du travail. Après, bien évidemment, on y rajoute les couches juridiques parce que c'est bien évidemment la première chose qu'on demande à un avocat, c'est de faire une analyse juridique. Et on voudrait expliquer aux gens et mieux leur expliquer quel est notre rôle. Et dire que c'est pas parce qu'un avocat défend quelqu'un qui est vu par la société comme quelqu'un de peu recommandable que l'avocat doit être mis en cause. Lui, son travail, c'est de défendre la personne, pas de l'excuser, juste de l'assister et de s'assurer que ses droits soient respectés. C'est ça aussi le travail de l'avocat.
Il y a eu des difficultés, notamment pour les avocats des émeutiers, si on fait le lien avec le 13 mai.
Oui, il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de reproches. Et quand je dis reproches, c'est un euphémisme, hein, des insultes, des critiques sur ceux qui sont intervenus, disant qu'ils prenaient fait et cause. Les avocats qui sont intervenus.
Il n'y a pas de proximité idéologique, c'est ça que vous dites.
Quelquefois, mais c'est pas le sujet. Quelquefois certains en effet ont des proximités idéologiques mais pas forcément, évidemment que quand on défend un violeur on ne défend pas la cause d'un violeur en disant qu'on a un droit de violer des enfants mais pendant les émeutes ça a été comme les gens étaient plus à fleur de peau, ça a été très difficile et moi je voudrais remercier les confrères qui sont intervenus pendant cette période parce qu'il faut quand même comprendre qu'eux-mêmes vivaient le shutdown vivait, les contraintes horaires vivaient, le fait qu'ils ne savaient pas sur la route s'ils allaient pouvoir passer ou s'il allait avoir des barrages. Et ils sont allés défendre ces gens-là. Donc c'est vrai que quand on a entendu que la justice avait moins bien fonctionné pendant cette période, c'est pas vrai. Elle a fonctionné au vu des circonstances, mais elle a fonctionné. Et chaque personne qui a été présentée devant le tribunal a été assistée d'un avocat qui a assuré une défense pénale de qualité. Et ça, c'est quand même important de le dire. Et même si certains voudraient que, dès qu'on a commis quelque chose, sans même que ce soit jugé, on aille en prison sans être jugé et être assisté, la démocratie et la République, c'est ça. C'est d'être assisté à tout moment. Et ces gens-là n'ont pas été relaxés. Ils ont été condamnés, mais ils ont été assistés et leurs droits ont été respectés.
On sait que le procureur général, le procureur de la République aussi communiquent de leur côté pour essayer de mieux faire comprendre les décisions de justice, puisque ce que vous dites, c'est qu'on entend d'un côté qu'il y aurait une justice coloniale et de l'autre qu'il y aurait une justice laxiste, qui serait la même justice, pour autant, du point de vue où on se situe. Mais ça aussi, vous le regrettez ?
Moi, je regrette parce que aujourd'hui, on est sur une position très manichéenne. C'est soit blanc, soit noir, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et il n'y a plus de teinte de gris. Or, une décision de justice, on peut estimer que la sanction n'est pas suffisante ou qu'elle est au contraire trop dure. Mais aujourd'hui, c'est utilisé en fait par les plus extrêmes. En gros, ceux qu'on voit sur les réseaux, qui heureusement ne sont pas tous les gens qu'on croise dans la vie, mais c'est ceux-là qu'on entend. Et ces extrêmes-là, en fait, vont avoir une vision très extrême de la situation et dire voilà, bah, c'est une justice de blanc qui ne condamne que des Mélanésiens. Et puis d'autres qui disent ah bah voilà, comme ils sont Mélanésiens, ils ne sont pas sévèrement sanctionnés pour la même décision de justice. Vous avez une vision qui va être totalement opposée. Et je trouve qu'on manque de nuances et qu'on manque de critiques objectives sur des situations. Mais ici, et ailleurs.
Pour terminer, Madame Le Bâtonnier, quelle est l'activité que vous pensez, que vous attendez pour l'année 2026? Là, on a résorbé tous les dossiers émeutes. On en est où concrètement? On est revenu sur quelque chose de plus commun ou alors il y a encore des dossiers latents liés à cette période?
Alors, il y a encore des dossiers en cours, bien évidemment, alors qui ont été dépaysés pour le plus gros, mais je pense que tout le monde est au courant. Il y a encore quelques dossiers qui sont en cours, parce que, notamment, il y a encore des incendies, alors plus liés directement aux émeutes, mais toujours avec cette colère, pour certains, d'une certaine jeunesse, qui surfent encore sur les déclarations politiques.
Donc ça, on en retrouve encore au tribunal aujourd'hui?
Encore, oui, bien sûr. Après, la délinquance de la jeunesse, ça fait longtemps qu'on alerte le gouvernement, les institutions, sur le fait qu'elle s'aggrave, elle s'alourdit, elle devient de plus en plus violente et de plus en plus fréquente. On a multiplié, je crois, par 4 le nombre d'audiences devant le tribunal pour enfants ou le juge pour enfants. Donc, cette délinquance de la jeunesse, elle existe et elle s'aggrave depuis de nombreuses années. Là, évidemment, pendant les émeutes, ça a explosé. Là, pour l'instant, nous sommes en période de vacances judiciaires. Donc, l'activité est plutôt vraiment très ralenti. On a entendu les déclarations de M. Ponga sur le fait que l'année 2026 sera encore plus difficile que l'année 2025. Moi, je n'ai pas une boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer sur l'année 2026. J'ose espérer, bien évidemment, qu'on ne sera pas confronté aux mêmes émeutes, parce que je pense que toute la population en souffre énormément, et plus certains que d'autres. Et pour l'activité, nous ne pouvons qu'espérer, nous, une relance économique pour permettre aux personnes de retrouver un emploi, aux entreprises de ne plus fermer, aux familles de moins se déchirer, et que tout le monde puisse reprendre une situation un peu apaisée.
Merci beaucoup, Maître Barbara Cochois-Bâtonnier. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin dans cette émission. Une interview à retrouver en podcast sur notre site internet, le www.rrb.nc.